Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est l'Apocalypse, troisième partie. Imaginez pour un instant que vous vivez dans la province romaine de l'Asie à la fin du 1er siècle. Vous êtes chrétien, et pour cette raison, on vous évite, on boycotte votre commerce. Vos enfants n'ont pas le droit de jouer avec les autres enfants du quartier. On écrit de sales mots sur les murs de votre maison, et vous risquez d'être arrêté par les autorités à n'importe quel moment. Ne vous sentiriez-vous pas isolé, rejeté, dans l'incertitude et l'insécurité? C'est parce que ces serviteurs vivaient de telles choses que Jésus-Christ leur a envoyé un message spécial, un message de réconfort pour les rassurer qu'ils n'étaient pas seuls dans leur souffrance, et pour leur donner le courage nécessaire de rester fidèles au milieu des épreuves encore plus sévères qui venaient. Bien que l'Apocalypse soit, de plusieurs manières, unique parmi les livres du Nouveau Testament, il est, en fait, une épître, ou lettre, et il commence de la même manière que la plupart des autres épîtres du Nouveau Testament. Contrairement à la pratique moderne de signer les lettres à la fin, l'auteur s'identifiait au début et précisait ensuite le destinataire ou les destinataires. Après cela, l'auteur mettait une salutation et bénédiction. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est l'apôtre Jean qui envoya cette épître aux sept églises en Asie. Nous lisons donc ceci au verset 4 et 5 du premier chapitre. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Jean souhaite à ses lecteurs la grâce et la paix de trois sources, qui sont les trois personnes de la divinité. L'accent est mis spécialement sur Jésus, celui qui accorde cette révélation. Il est le témoin fidèle. On peut donc avoir confiance en tout ce qu'il dira. Il est le premier-né des morts. Pas le premier ressuscité dans le temps, mais de tous ceux qui l'ont été ou le seront, il est le premier en rang. Premier-né veut dire souvent premier en rang, en autorité, en dignité. Il est le prince des rois de la terre. Qu'on le sache ou pas, tout chef humain est soumis au règne invisible de Jésus. Certains groupes disent que Jésus ne règne pas encore, se persuadant que le mal ne pourra plus exister durant son règne. Cependant, la Bible affirme, en Psaume 29, verset 10, que malgré la méchanceté de la génération de Noé, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Au beau milieu du règne cruel de l'Empire babylonien, la Bible déclare que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Daniel 4, verset 17. Si la condition du monde prouve que Jésus ne règne pas, elle prouve que Dieu n'a jamais régné sur la terre. Dieu n'exerce pas toujours son pouvoir de la manière que nous voulons, mais il accomplit ses desseins. Jésus a bien reçu et exerce actuellement toute autorité. Matthieu 28, verset 18. Nous acceptons cette vérité parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Jean éclate ensuite en louange à Jésus. Il dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Notez en passant que le royaume de Jésus est présenté comme étant une réalité présente. Il ne revient pas pour établir son royaume, car son royaume existe déjà et les chrétiens en font partie. Au verset 9 de ce premier chapitre de l'Apocalypse, l'auteur dit ceci: « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Il était dans cette île de Patmos parce que c'était un endroit où les autorités romaines exilaient certains prisonniers. Jean aussi était donc victime de la persécution par l'Empire. Il partageait la souffrance de ses destinataires. Mais remarquez qu'il avait part avec les autres chrétiens non seulement à la tribulation ou persécution, mais aussi au royaume. Les chrétiens au premier siècle n'attendaient pas le royaume, ils y participaient déjà. Ceux qui lisent l'Apocalypse avec l'idée que le royaume ne viendra qu'à la fin des événements décrits dans le livre ne comprennent pas le royaume de la même manière que l'apôtre inspiré. Ainsi donc, à ces chrétiens exposés tous les jours à la persécution et la tribulation, Jean rappelle la puissance, la fidélité, l'amour et le règne du Seigneur Jésus. Ce Jésus vient avec les nuées. Jean dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Apocalypse 1, verset 7. Ces mots auront leur accomplissement final lors du retour personnel de Jésus pour juger le monde, et il est difficile de lire ces lignes sans penser à ce jour. Cependant, dans ce passage, le premier sens de cette déclaration est que Jésus vient exercer un jugement dans l'histoire contre Rome, l'ennemi de son peuple. Ce langage est employé souvent dans l'Ancien Testament pour décrire une telle intervention de la part de Dieu. Un exemple très clair se trouve en Ésaïe 19. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ésaïe 19, verset 1. Le texte en Apocalypse dit que ceux qui ont percé le côté du Seigneur le verront. Ceux qui avaient percé le cœur de Jésus étaient bien les Romains. Jean 19, 34 et 37. Et ceux qu'il venait juger en ce jour-là étaient des Romains. Que ce soit un retour personnel ou la destruction de l'Empire romain, l'événement serait connu de toute l'humanité. Tout œil le verra et fera de sorte que les non-croyants se lamentent. À partir du verset 10, Jean nous décrit ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait : ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean dit que celui qui lui parlait ressemblait à un fils d'homme. Cette même expression se trouve en Daniel 7, versets 13 et 14, et cette vision devait sans doute faire penser à ce passage. En Daniel 7, le prophète eut une vision de quatre bêtes qui sortirent de la mer. Une scène de jugement fut montrée, puis du feu tomba du ciel, dévorait la quatrième bête. C'est en ce moment que quelqu'un de semblable à un fils de l'homme se présenta devant le juge et reçut un royaume universel et éternel. Les quatre bêtes de ce passage correspondent aux quatre parties de la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue dans son rêve, en Daniel 2. Elles représentent les empires babyloniens, perses, grecs et romains. La vision montre le jugement de Dieu contre tous ces royaumes, et surtout le quatrième, l'Empire romain. Et les premiers lecteurs de l'Apocalypse auraient reconnu en ce Fils de l'homme celui par qui se réalise la victoire des saints sur la quatrième bête. Cela les aurait certainement réconfortés de le voir parmi les chandeliers, qui représentent, selon le verset 20, les églises. Jésus est, dans la vision de Jean, vêtu d'une longue robe, un habit qui aurait peut-être évoqué une personne de rang et d'autorité. Ses yeux, comme une flamme de feu, voient tout, pénétrant au fond des cœurs. Ses pieds, comme de l'airain ardent, sont prêts à écraser ses ennemis. Sa voix est décrite de la même manière que la voix de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. De sa bouche, Jean voit sortir une épée à deux tranchants. La parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12. Pas la bonne nouvelle qui invite au salut, mais les sentences du juge qui condamne. Son visage brille comme le soleil. Ce qui est plus important ici n'est pas de détailler le sens de chaque aspect de l'apparence du Christ, mais de recevoir l'impression de sa puissance et sa gloire. Le fait qu'il est parmi les églises veut dire qu'il connaît leur état, qu'il s'occupe de leur bien-être, qu'il est au courant de ce qui leur arrive et qu'il est avec elles dans leurs épreuves. Jean est bouleversé par cette vision du Christ dans toute sa splendeur et tombe à ses pieds. Mais la vision, bien qu'effrayante au début, était destinée plutôt à créer de la confiance. Le Sauveur lui dit : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. » Jésus insiste sur trois faits qui devraient inspirer la confiance. Il est éternel. Il dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant. » Si la méchanceté et la force apparemment invincible de Rome font peur aux chrétiens, elles ne disent rien à Jésus. L'oppression de l'Empire n'est que pour un moment devant celui qui connaît l'éternité. Il s'est ressuscité. Il dit « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Le pire que Rome pourrait faire à un chrétien serait de le tuer. Ils ont tué Jésus. Mais cela n'a fait que le faire entrer dans sa gloire. Il serait pareil pour ses disciples. Il a autorité sur la mort et la vie. Jésus dit : Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort et le séjour des morts, considérés ici comme des localités, ont leurs portes. Celui qui a les clés peut en ouvrir les portes pour faire entrer ou sortir qui il veut. Les chrétiens menacés de la persécution ne devraient pas avoir peur d'entrer dans un lieu dont le Sauveur possède les clés. Et nous non plus. Quel aurait été l'effet de ce chapitre sur les chrétiens de l'Asie au milieu de leur épreuve? Il leur rappelle qu'ils n'étaient pas seuls dans leur souffrance. Dieu était avec eux. Il leur rappelle l'amour de leur Sauveur et les honneurs qu'il leur avait faits. Il les assure que Jésus vient avec les nuées, il vient pour les venger. Il leur dit qu'ils partageaient ensemble la tribulation, mais aussi le royaume. Il leur montre Jésus dans sa splendeur et toute puissance, celui qui est maître même de la mort, et qui est parmi les églises qu'il aime et connaît. Est-ce que ces choses sont vraies pour nous aussi? Et peuvent-elles nous encourager et nous fortifier dans nos difficultés? Bien sûr. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Aujourd'hui, aussi bien qu'il y a 1900 ans.